aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Vierge Marie, parce que c'est le mois du rosaire et que déjà, on arrive vers la fin de ce mois d'octobre, c'est l'avant-dernier dimanche. Or, il ne faut pas oublier les grâces qui sont offertes à l'Église pour ceux qui croient, pour ceux qui, comme l'aveugle de Jéricho, savent avec enthousiasme, dès qu'ils entendent parler du Seigneur, et de grâce disponible, eh bien ils savent se lever, crier vers lui. Et ceux-là sont exaucés. Alors, revenons en présence de Marie, frappons à la porte, là, à Nazareth, demandons-lui de nous ouvrir et mettons-nous à son école. Marie, c'est, voyez, par rapport au texte de Jérémie, là, le premier texte qu'on a lu, C'est le thème du petit reste. Jérémie console le peuple de l'exil qu'il annonce. Il va y avoir un exil à Babylone de 70 ans. Mais il annonce qu'il y aura, ce ne sera pas éternel, et qu'un petit reste reviendra et fera refleurir à nouveau la Terre Sainte. Marie, c'est ce petit reste. La Vierge Marie, on peut dire qu'elle est, puisqu'elle dépend entièrement du Christ et du christianisme, elle est le petit reste d'Israël, elle est vraiment celle qui demeure fidèle. Elle vit dans l'espérance, la Vierge Marie, même si il n'y avait pas beaucoup de... vous savez, c'était la Palestine, au premier siècle de notre ère. Surtout, elle vivait en Galilée, à Nazareth. Il n'y avait pas beaucoup de croyants pratiquants là-bas. Il y avait beaucoup de gens, au contraire, qui avaient la philosophie du monde, la philosophie hellénistique, et qui essayaient de tirer leur épingle du jeu, de se faire de l'argent avec les règles de Rome. C'était la religiosité, elle était concentrée autour de Jérusalem, dans la région de la Judée, et encore, on sait bien que c'était une religiosité rigide. Donc la Vierge Marie, elle vit dans une espèce de désert, exactement comme dans le texte de l'Apocalypse. C'est cette spiritualité d'un petit reste qui a gardé la foi, qui vit vraiment dans la foi en Dieu, notre Créateur. Elle nous appelle à faire cela. Elle l'a vécu dans sa vie terrestre, elle la vit aussi dans sa mission, une mission qu'on entrevoit et qui nous est décrite par Jean dans le texte de l'Apocalypse, où là, ça dépasse la vie terrestre de la Vierge. C'est vraiment Marie, mère de l'Église, qui est attaquée par le dragon et qui trouve refuge au désert. Loin de Babylone, loin de ce monde qui refuse Dieu. Et là, Marie, elle nous apprend que le christianisme est toujours dans sa version fervente, une affaire de petit reste, quoi qu'il arrive. Marie est la consolatrice des affligés. Donc, approchons-nous de cette demeure, du cross, où elle habite. Comment l'est-elle ? Elle l'est parce qu'elle donne du sens à la vie par la communication de la foi. Quand on prie la Vierge Marie, notre foi est renforcée. Mais peut-être qu'on n'y prend pas bien garde, mais après la récitation d'un rosaire, on est raffermi dans notre foi. Et on ose peut-être des choses qu'on n'oserait pas. Elle donne aussi la force à la volonté humaine pour faire face aux épreuves de la vie, et tout simplement à l'usure de la vie. Elle permet, la Vierge Marie, de dépasser les obstacles, de ne pas se décourager, de ne pas s'user. Un cœur qui s'use, c'est un cœur qui s'éloigne du Seigneur. Le cœur ne doit pas s'user. Le cœur, c'est la pompe, physiologiquement, mais c'est vrai aussi spirituellement. C'est le dynamisme de notre âme. Il faut faire Bartimée pour ça. Il est plein d'enthousiasme, plein de confiance, donc. Et il met toute sa volonté derrière cette certitude que le fils de David qui est là n'est pas n'importe qui et qu'il peut le guérir. Et il est décidé à le suivre ensuite. Lui, c'est pas seulement pour obtenir une guérison et s'en aller sans louer Dieu, c'est pour consacrer sa vie à Dieu, ça va plus loin que sa guérison. Et Jésus lui donne la guérison en plus de la foi. Marie fait la même chose, elle nous donne tellement plus. Sans nous en rendre compte, nous orientons profondément, réellement, notre existence vers Dieu jusqu'à la consacrer à Dieu. Et tout ça dans une douceur inimaginable qui fait qu'on s'en aperçoit à peine. Ça, c'est la Vierge Marie. Et Marie, elle forme des disciples du Christ et par ce rosaire, par cette prière simple, mais elle nous met immédiatement en présence d'elle-même, bien sûr, mais de la Trinité aussi. La prière personnelle, mais la prière aussi communautaire. Et c'est vrai que les groupes du rosaire, c'est un mouvement qui est très beau, qui permet d'une manière très simple d'avoir l'équivalent des grâces qu'un cœur monastique peut avoir dans son monastère en récitant l'office. Et par la récitation d'un rosaire en commun, on obtient le complément de ce qu'on a quand on le prie simplement, personnellement. Il faut les deux, c'est deux belles choses. Marie est le modèle du croyant, hein, selon Dieu. Le modèle selon le cœur de Dieu, le modèle de ce que doit être un croyant. Elle nous montre sans cesse, elle nous donne envie, la Vierge Marie, elle nous fait désirer ce que notre nature ne peut pas désirer. Et c'est une imitation spirituelle, pas psychologique, pas sociologique. Il ne faut pas imiter la situation sociale de la Vierge Marie, par exemple, mère de famille qui ne travaille pas. C'est pas ces modèles-là qu'il faut prendre. Il faut prendre comme modèle vraiment les vertus spirituelles qui la caractérisent en tant qu'immaculée. Alors d'abord, cette valeur, la première de toutes, c'est l'accueil de la transcendance. La Vierge vit dans un monde qui est comme le nôtre, hein, exactement. C'est un monde qui a perdu la sensation de la transcendance. Vous savez, quand il y a des gens qui n'arrivent plus à sentir leur peau sans plus rien, ou le nez ne sent plus rien, plus d'odeur, ben c'est pareil. La transcendance avait disparu du monde. Jésus l'a complètement restauré, cette transcendance. Et c'est la première chose. Quand l'ange Gabriel vient la voir, eh bien, elle s'ouvre à la transcendance. Et n'oublions pas que la transcendance, l'effusion, de la transcendance dans la vie de quelqu'un, c'est la libération de l'Égypte, c'est la libération du monde et de ses chaînes. On est prisonnier du monde, même quand on est chrétien, si on se consacre uniquement sur la vie présente. La transcendance, c'est ce qui nous permet de dépasser la vie présente et donc de l'assumer. Sinon, elle nous écrase, cette vie présente, elle prend toute la place. La seconde vertu qui qualifie l'Immaculée comme une croyante impeccable, c'est cette béatitude de l'humilité et de la gratuité qui la caractérise. Marie, c'est vraiment l'humble servante du Seigneur, et elle fait tout, non pas pour elle-même, mais pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour le bon plaisir de Dieu, par amour de Dieu. Ça, c'est vraiment cette gratuité merveilleuse de son cœur immaculé. Et c'est cela que nous devons imiter. Nous devons avoir envie de lui ressembler pour ces deux vertus-là. Parce qu'elles rendent, ces deux vertus-là, elles demeurent dans la gloire. Elles habitent la gloire, elles nous forment dès à présent à la vie éternelle. Elle nous enseigne aussi, la Vierge Marie, à être, à devenir des temples de Dieu. C'est progressif. Notre cœur, notre âme doit être un temple dédié au Seigneur, un temple qui habite, qui reçoit le Seigneur lui-même. C'est l'inhabitation divine dans l'âme des croyants. Dieu vient habiter. Alors que cette demeure, certes, ne sera pas forcément somptueuse, mais comme celle de l'Immaculée, parce que ce qui fait qu'une âme est un temple somptueux, c'est la pureté de cette âme-là. Des murailles de lumière, des cloches toutes lumineuses, etc., etc. Nos cœurs doivent être ainsi. Ben, il faut commencer par le désirer, c'est le début du chemin. Faire un peu de place dans notre vie au Seigneur, pour qu'il puisse poser les fondations d'un temple, là, au centre de notre vie, et le laisser petit à petit habiter ce temple et l'animer, lui donner sa lumière, lui communiquer sa lumière. La douce lumière qui guérit nos yeux, c'est la Vierge Marie. La lumière qu'est Jésus, c'est une lumière qui aveugle tant elle est forte. Et elle est la seule vraie lumière. Mais en Marie, il y a un filtre qui nous est accordé, un filtre de douceur, d'une douceur merveilleuse. Mais c'est la lumière pure, quasi pure du Verbe de Dieu qu'elle nous permet de recevoir comme une onction sur nos yeux, dans nos yeux, et qui guérit nos yeux d'aveugle. C'est vrai que nous sommes profondément aveugles, comme Bartimée. C'est incroyable, petite créature que nous sommes. Nous vivons dans un monde matériel qui est très beau. Il suffit de regarder la journée qu'on a eue ici, dans la campagne. C'est la création de Dieu est magnifique. Mais nous sommes incapables de décrypter la présence de Dieu derrière cette munificence. On est aveugle. On ne voit que ce qu'on a envie de voir, que ce qu'on désire en termes d'appétit humain. Nos appétits sont nos yeux. C'est bien triste d'être ainsi parce qu'on est bien aveugle quand on est ainsi. Demandons à Marie de nous spiritualiser. Elle le fait avec la douceur, mais avec force. Je suis un grand admirateur de l'exigence de Marie. Mais tout dans la douceur, sans rien renier aux exigences. C'est l'Immaculée. Suivons-la. Habitons chez l'Immaculée.